Bonjour tout le monde. Voilà, le soleil est venu. Il pleuvait quand on est arrivé. Et c'est toujours particulier de venir dans un espace qui n'est pas fait pour ce qu'on est en train de faire et de s'installer, d'utiliser ce qu'il y a, des tapis qui sont pas des tapis de méditation, des coussins, des chaises, un petit hôtel qui est un panier. Renversé avec je ne sais pas quoi comme l'odeur, une bougie qui, comme on n'a pas le droit de bougie et on sent ici, on a une bougie à pile. Ce matin, quand je partais, enfin, quand je me préparais de partir, j'avais tellement de choses qu'il fallut que j'amène l'ordinateur. Le cloche, le gong, les clappers, le timer, petite bougie, les livrets pour chanter, quelque chose à manger, mes affaires ordinaires, passe Navigo, clé, téléphone, lunettes, cahier. Et j'ai dit à mon mari, quand j'étais en train de faire tous mes sacs et tout, j'ai dit, ouais, ça c'est vraiment le désavantage de ne pas avoir un lieu fixe. Parce qu'au même moment, à côté de chez moi, il y a le centre zen, et eux, ils sont en train de faire une retraite, et ils n'ont rien à faire. Tout est sur place. Roshi, mon maître, n'a que choisir dans son tiroir le rakusu qu'elle veut, le met et monter à l'étage et tout est fait. Et donc j'ai dit, bah, ça c'est un désavantage de ne pas avoir un lieu. Je suis chargée comme une bourrique, comme on dit. En disant ça, je sais tout de suite que les avantages sont beaucoup plus que les désavantages. Selon mon expérience, ma façon de vivre le dharma et de le partager. Ceci dit, dans toute cette ce que j'ai amené, j'ai oublié mon rakusu. J'ai aussi oublié une des choses que je voulais amener à manger. Mais je me suis rendu compte de ça beaucoup plus tard. Et donc, je n'ai pas mon rakusu. C'est pour ceux qui ne voient pas, je n'ai pas mon rakusu. Et ça aussi, c'est une sorte de libération, franchement. Pas qu'il ne faut pas avoir un rakusu, mais de ne pas être attaché à avoir un rakusu. J'étais même pendant Zazen, à un moment, une pensée est venue parce que demain, je vais aller là où ils font la retraite parce que une de mes camarades sensei, Tanya, donne Jukai pour la première fois. Et donc, je voulais assister à ça. Et donc, je vais y aller juste comme ça pour la demi-heure de Zazen et puis pour la cérémonie. J'ai même eu une pensée, quel rakusu je vais mettre? Donc, vous voyez le piège de cette histoire de rakusu. Parce que moi, j'ai la plupart des gens, ils ont juste un rakusu noir qu'ils ont fabriqué. Exceptionnellement, quelqu'un a un autre qu'on leur donnait. Moi, j'ai tout un tas de rakusu qu'on m'a donné. Donc, j'ai l'embarras du choix. Et ce matin, je n'ai amené aucun. Alors, pourquoi je dis que je suis presque contente de l'avoir oublié? Bah, c'est un peu comme différentes façons de regarder ça. Je vais y revenir. En même temps, j'ai eu une expérience hier soir où j'ai deux chats qu'on voit parfois sur mon écran quand je fais une méditation. Il y en a une qui a 3 mois de plus que l'autre, que le Sangha m'a offert en fait pour mon anniversaire. Enfin, c'est nous qui sommes allés le chercher dans un refuge pour chats. Et elle a été abandonnée, enfin, elle était enlevée de sa mère avec ses soeurs, les frères, quand elle avait 6 semaines, parce que c'était une mère sauvage. Enfin, comment on dit ça?
Oui, ça
Sauvage, on dit ça, oui. Oui, qu'il y avait l'autre nom. Quoi? Oui, ou peut-être en anglais, il y a un autre nom, je ne sais pas. Et donc, les gens qui s'occupent des chats de rue, etc., trouvaient que c'était mieux. Ils ont essayé d'attraper la mère aussi, mais la mère ne voulait rien savoir, qu'ils ont pris les petits. Bref, donc j'ai récupéré cette chatte quand elle avait 3 mois. Chat qui, depuis des générations, n'a jamais été domestiqué. Donc elle avait vraiment dans elle, dans son, quelque chose de vraiment pas domestiqué. Presque sauvage toujours, bien qu'elle était un peu plus que parce qu'elle était petite. Mais comme elle avait été enlevée de sa mère, c'était traumatique. Elle est traumatisée, elle vivait dans une cage jusqu'à ce qu'on la récupère. Et puis, au même moment, quelqu'un d'autre m'a proposé un chat parce qu'on savait que je cherchais des chats. Et on a dit oui, on prend l'autre aussi. Alors l'autre, c'était un autre profil complètement. Elle est un chat de race, en partie. Sa mère est un chat de race. On ne sait pas qui est le père. Vivait dans un appartement bourgeois à Montmartre, avec une famille, avec deux ados qui adoraient les chatons. La mère était là, la mère s'occupait des petits. Les petits sont, c'était adorable. Et donc, on l'a récupérée, elle aussi. Et on était persuadés que le chat de rue allait être le cadre des 400 coups, qui allait nous faire voir toutes les histoires. On n'était pas sûr qu'on pouvait le laisser dehors. On était sûr qu'elle allait sauver, qu'elle allait bagarrer avec des autres chats, etc. Et elle a des cheveux courts, qui sont toujours impeccables, hein, faut dire. Tandis que l'autre, on a été persuadé que c'était une gentille chat de maison, ne fait pas les histoires, adorable, elle est élégante, belle, elle a des poils gris clair, magnifique, très long poil. Et ben dis donc, c'est le contraire. La petite grâce, elle nous fait voir de toutes les couleurs. Elle est toujours décoiffée dans tous les sens. Elle a des blessures, donc elle perd ses poils. Elle a des allergies, donc il faut le traiter. Bon, ça, c'est un peu dur au chat de race. Tandis que l'autre, elle a peur de tout. Et donc, elle est très attachée à nous. Elle veut rester plutôt à la maison. Elle sort, mais peur de tout. Toujours impeccablement coiffée parce que ses cheveux sont, ses poils sont courts. Et elles sont tellement différentes et tellement contraires à nos idées reçues de comment elles devaient être. La petite grise est vraiment la alpha, c'est la boss. On pensait que ça allait être l'autre qui sera le chef, pas du tout. Et hier soir, donc, l'autre qui chat de race en ce moment, qui a une démangeaison allergique, donc elle perd les poils, c'est bizarre. Et elle est sortie hier soir et il pleuvait des cordes. Enfin, il pleuvait pas les cordes, mais un peu comment on dit, un pluie. Voilà. Et quand elle est rentrée, on leur a dit, tes poils étaient complètement trempés. Comme elle est petite, on n'a pas l'impression qu'elle est petite. Mais là, oh là là, je me dis, mais je ne reconnais pas cette chatte. Et j'étais pris de... Mon mari n'a pas compris mon état d'âme. Je me sentais presque coupable d'avoir transformé cette magnifique chatte de race élégante, bourgeoise de Montmartre, en espèce de chat qui traîne partout, qui ressemble à rien, un rat, quoi. Mais ça m'avait fait regarder toutes les idées reçues et comment on veut figer des choses, même l'identité des chats, on veut figer. Et que ça se corresponde à une image, une idée, etc. Tandis qu'elles sont juste magnifiques toutes les deux, elles sont juste ce qu'elles sont et on reconnaît leur parcours dans leur façon d'être. Celle qui est devenue les 400 coups, bah, elle est pleine de confiance. C'est l'alpha parce qu'elle était grandie dans une maison pleine de confiance. Tout le monde s'occupait d'elle. Sa maman était là, tandis que l'autre, elle a peur de tout. Donc, je raconte ça parce que je peux faire la même chose avec mon rakusu. Je peux faire la même chose avec un zendo comme il faut, les habits comme il faut, les prosternations comme il faut. Les chants comme il faut, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et imiter ce qu'on pense qu'il faut faire sans être et être attaché à une image. Et souvent, on est attaché à cette image de Bouddha quand on parle de notre pratique. Et notre image de Bouddha, là, elle a pris un sacré coup ce matin parce que c'est un bocal à l'envers. Et.
Je l'ai remis à l'endroit.
Ah
Je
oui. Je
me
savais même pas si c'était. Je sais même pas ce que c'est, bref.
dit
C'est le Bouddha. Mais cette image de Bouddha, ce n'est pas le Bouddha. Enfin, il n'est pas là pour être vénéré, cette image. C'est être là de servir comme inspiration, comme rappel de ce que cette personne-là a réalisé. Et cette personne-là a réalisé ce qu'on appelle l'éveil. Il s'est libéré de ses attachements et à son identité, à soi-même, pas sur un coussin noir, un tapis de kiné. Il était assis probablement sur un tas d'herbes et sous un arbre. Rien de spécial. Et si on s'attache à quelque chose de spécial, ben on passe à côté complètement de ce que c'était son enseignement qu'on est censé vénérer, qu'on met en avant cet enseignement. Donc j'ai pris juste quelques notes pour ne pas oublier ce qui me traversait pendant la demi-heure de posté. Parce que ces idées. Disons, même le rakusu, c'est-à-dire que ce matin, comme je n'ai pas le rakusu, dans un premier temps, je me sens toujours un peu, il y a quelque chose qui manque, parce que j'ai tellement l'habitude. Mais c'est bien de ne pas avoir cette habitude, parce que soudain, c'est plus simple. C'est plus simple. Et comme. La plupart, vous m'avez déjà entendu parler de mon parcours. Quand j'ai commencé à enseigner et aller au Portugal et même à Paris, je n'avais rien. Je n'avais pas de coussin, je n'avais rien de comme il faut. Et au Portugal, donc, on était assis sur des coussins comme ça, dans les salons, un peu comme à Paris, on était dans le salon de Joa. Il faut dire qu'à Paris, Franck et sa sangha m'avaient offert 10 aboutins et 10 afous, ma transmission. Et donc j'avais ça chez Joa. Sinon, on n'avait rien. Et ça nous a permis de, ça m'a permis, et donc ça a permis que je transporte tous les autres dans cet esprit, c'était de simplement s'asseoir, éveiller nos cœurs, affiner notre attention pour être libre. Et si on s'accroche à toutes les formes et les rituels, ben, on n'est pas libre. On peut très bien se servir des rituels comme cadre. On peut très bien porter les hakusu. J'en porte, hein. Vous savez, je porte les hakusu. On peut très bien pratiquer les rituels, référer aux enseignements traditionnels, les choses comme ça. Mais si on croit que c'est ça dont il s'agit, ben on va passer à côté. On se coupe de ce dont il s'agit. Et il s'agit de développer ça, d'éveiller les cœurs et développer cette attention et cette sagesse et cette bienveillance dans la vie de tous les jours, en dehors de cette pièce. Là, quand on est avec tous les autres, pas juste avec ces gens ici. Parce que là, c'est vraiment un cercle très restreint. Évidemment, on la pratique entre nous, dans un contexte comme ça, quand on est en ligne, quand on fait ses chines, quand on travaille ensemble sur un projet, etc. Mais on fait tout ça hein, pour pouvoir librement vivre qui on est véritablement et accueillir les autres véritablement comme ils sont. Et pour ça, donc, on est obligé de renoncer à qui on pense qu'on est. Tout à l'heure, il y avait un moment, là maintenant c'est là, le soleil. Il y avait le soleil qui tombait sur le parquet, exactement d'une certaine façon. Et quelqu'un en face avait ouvert une fenêtre, avait secoué quelque chose, je ne sais pas, et ça a bougé aussi. Notre identité est aussi transitoire et illusoire que ça. C'est vraiment de la même nature. C'est dû à un concours de circonstances à ce moment-là. Et quand ces circonstances ne sont pas là, ça disparaît. Et ces circonstances changent tout le temps. Donc, qui on est change tout le temps, dans chaque circonstance, dans chaque moment. Je n'avais pas du tout le nez qui coulait avant d'arriver ici. J'arrive ici, il y a quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais qui me fait éternuer, une allergie de quelque chose. Je ne suis pas quelqu'un qui a un nez bouché et quelqu'un qui n'a pas un nez bouché. Enfin, c'est juste à cet instant-là, c'est ce qui se manifeste. Je voyais ce matin près de la porte de jardin de ma maison, il y a un arbuste, un petit arbre, une plante, je ne sais pas, c'est un camélia. C'est un arbre. Ouais, mais c'est petit, c'est relativement petit, c'est très beau. Et ça fleurit en ce moment, c'est très étonnant. Et c'est magnifique.
Ça
Et quoi?
sent bon.
Hein, je ne sais pas, je n'ai pas sorti, j'ai regardé. C'est très beau. Et il y a très peu de temps, c'était des bourgeons. La semaine dernière, non, oui, c'était juste quelques jours, c'était le premier jour de printemps, des jeudis juin. Selon le calendrier.
Change.
Quoi?
Parce que des fois c'est 21 et des fois c'est 20.
C'est ça aussi, oui. Et moi aussi, je suis un peu perdue avec ça. En même temps, pour la médecine chinoise, c'est déjà février, c'est le printemps déjà. Donc, selon ceci ou cela, c'est le printemps. Bref, on voit manifester, donc il y a le bourgeon. Avant le bourgeon, il n'y avait pas de bourgeon, il y avait juste de branches. Avant la branche, il y avait la graine. Adrien qui témoignait de toutes ces choses-là parce qu'il est en contact avec ça tout le temps, il plante les graines, il cueille les choses, il est en contact direct avec ça. Nous autres, on est un peu ceux qui n'habitent pas à Paris, vous êtes plus en contact peut-être que nous. Et donc le bourgeon, enfin disons la graine, à un moment, doit, si on reste juste avec... Si c'était nous, doit renoncer à son état de graine pour permettre de pousser. Et puis ça pousse, et le petit pouce doit renoncer à son identité de petit pouce pour devenir un arbre. Et puis il y aura le bourgeon qui, à un moment, doit renoncer à son état de bourgeon pour s'ouvrir et offrir cette fleur magnifique. Et le parfum et la couleur que ça amène. Et c'est fait avec générosité. Les fleurs, c'est une générosité inouïe. Et puis, mais le bourgeon aussi, c'est très généreux de renoncer à son état de bourgeon. C'est très généreux à la petite graine de renoncer à son état de graine pour pousser. Et puis, le fleur, à un moment, on n'est pas encore là, mais on est déjà en train de. La fleur va faner. Les pétales vont tomber et la fleur doit renoncer aussi à ça, à être fleur splendide et laisser tomber les pétales. Et puis les pétales tomber et puis ça va. On sait que ça devient d'autres choses. Enfin, ça se transforme ou c'est peut-être transmute, c'est peut-être mieux. C'est pas que ça devienne d'autres choses, mais ce qui était n'est plus et il y a d'autres choses, disons ça. Et dans cette graine, comme Thich Nhat Hanh merveilleusement nous rappelle, c'est dans la graine, dans la fleur, dans le bourgeon et tout, il y a le soleil, il y a la pluie, il y avait la pluie sur ces fleurs ce matin. Il y a les nuages, il y a des abeilles, il y a les insectes qui vivent là-dessus, il y a tout. Dans chaque instant, il y a tout. Mais si on fige l'identité, ben on passait à côté de tous les êtres, de tous les êtres, de toutes les choses et de tous les êtres. Et on se coupe de cette expérience expérientielle et directe de qui on est véritablement. On est le bourgeon. On est le soleil. On est les étoiles. On est chacun l'autre. Alors, si je m'attache à Mohakusu, c'est une façon de se couper. Si on trace l'arc de cette pratique qui zen, on appelle ça la pratique zen, qui est venue en Occident véritablement il y a 60, disons 70 ans, quoi. Un peu peut-être avant, mais c'était très discret dans les années 50. Au début, toutes les formes et les rituels et tout ça exotique étaient un vrai atout. Ça nous permettait de renoncer à nos idées préconçues de ce qu'il faut faire, comment il faut faire, nos identités. C'était un vrai atout. À ce moment-là, c'était exotique, entre guillemets, tellement exotique que on comprenait rien. Et c'était une superbe possibilité d'avoir le tapis retiré et de juste revenir à soi. Parce que tout ce qu'on pensait de soi et les autres et la façon d'être, nos idées d'une pratique spirituelle, je dis non, nous, on n'était pas là, hein, mais ceux qui pratiquaient ça, toutes les idées préconçues étaient jetées par la fenêtre parce que ça ressemblait à rien. Et puis très vite, il y avait un attachement qui s'est établi. Tout le monde voulait avoir Hakusu, devenir moine, raser le crâne, porter les robes. C'est devenu de plus en plus experte dans les rituels, les formes, les endroits, il faut le faire ici et pas là. Et donc, tout est perdu. Toute la signification, entre guillemets, ou l'utilité de ces formes est devenue vide de sens. Et on passait à côté de quoi il s'agit véritablement. Parce qu'on était attaché aux formes et au rituel. Et ça nous coupait d'une expérience personnelle de le message original du Bouddha, qui était chez toi, en toi, éveillez-vous à ce qui est ici maintenant. Pas à, dans un endroit spécial, avec des tankas, avec des calligraphies, avec des superbes Bouddhas extraordinaires, des bols d'encens, un encens précieux. Des cendres dans le bol d'encens qui sont recueillies depuis des générations. On passait à côté. On commençait à passer à côté. Alors maintenant, de façon que moi je le vis, et on fait. Bon, évidemment, ça évolue, heureusement, mais. Et je parle de pratiques zen, mais aussi c'est vrai pour les Tibétains, les pratiques tibétaines, toutes les pratiques bouddhistes, disons, qui sont attachés à des traditions ancestrales qui viennent d'Asie, en gros. Mais le message du Bouddha était de trouver la voie du milieu. C'est ce qu'il a fait, lui. Dans le milieu entre les extrêmes qu'il avait poursuivis, de dénier le corps, de se couper du monde parce qu'il pensait que se couper du monde allait lui couper de la souffrance, ne pas s'occuper de ce corps et ce corps est ce qui nous pose tellement de problèmes, pensait que s'il ne s'occupait pas de ça, il allait plus souffrir. Ça, c'était un extrême. Et puis l'autre extrême, c'était de se complaire, de l'indulgence dans le monde des plaisirs, des attachements à l'ego, des biens matériels, des identités figées, des classes, des castes, ils venaient d'une famille plutôt élevée dans la société. Et il a trouvé le chemin du milieu, qui n'était pas de complètement se tuer à vivre, ni de se remplir des formes et des biens et des identités du monde relatif, parce que ça non plus, ce n'était pas la réponse. Il a trouvé le chemin du milieu, et donc c'est ça qui est notre objectif aussi. Comment trouver un chemin de milieu entre toutes ces formes et ces rituels et ces pratiques auxquelles on est très attaché et dans lesquelles on se perd, et rien du tout. Pas de forme, ce qui est une absurdité, parce qu'il y a toujours une forme, il y a toujours une situation, il y a toujours un rituel, que ce soit dans un restaurant étoile Michelin. Si c'est dans une cuisine de grand-mère à la ferme il y a 50 ans, si c'est dans nos cuisines ici, si c'est mettre des tasses sur le radiateur, oh, il y a toujours une forme, il y a toujours un rituel. Donc, quelle est la voie du milieu? C'est ça qu'on cherche. Dans mon expérience, c'était un vrai cadeau que j'ai reçu d'être jeté dans une situation où il fallut commencer à zéro. Il fallut tout rejeter. Et pas rejeter quand je ne voulais pas de ça, mais je n'avais rien. Et donc il a fallu commencer avec rien. Et regarder qui était véritablement le sens. Il faut l'emprunter. Quelle était l'essence de ça? Quel était de quoi il s'agissait, cette pratique? Comment trouver ce voie de milieu si on n'a rien? Et ce qui est très curieux, c'est que à le déjeuner après la cérémonie de ma transmission, donc il y a 20, 21 ans maintenant, il n'y avait pas de fête comme maintenant après les transmissions, il y a toute une fête, une grande année, un raout, les gens font des spectacles, etc. Il n'y avait rien de ça. Mais deux personnes, ma sœur dans le Dharma, Betty, et ma fille, qui avait 14 ans, se sont levées pendant le déjeuner pour nous chanter une chanson. Et le chant, David, là, je ne sais pas si tu te souviens. Et la chanson, c'était Throw It All Away. C'est une classique, c'est une standard, jazz standard, je crois. Et je ne sais pas du tout si Betty avait ça en tête, ma fille certainement pas, mais elle vénérait Betty qui était une chanteuse et ma fille était chanteuse. Et elles ont chanté cette chanson, Throw It All Away. Juste après qu'il y avait cette énorme cérémonie, tout le monde en était sur les trônes, cet extraordinaire maître qui allait transformer le bouddhisme en Occident, enfin, avec toutes les chamas, des habits, les kesas, les chants, les cloches, ce que tu veux. Et on me dit, throw it all away. Je ne l'avais pas entendu à ce moment-là. J'étais touchée par la chanson et par ma fille et Betty et tout. Mais très vite, c'est ce qu'il a fallu que je fasse. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à cette formidable liberté à juste s'asseoir où on est. Ne pas être attaché à un lieu, une façon de faire. Des objets. Bon, on a décidé d'avoir un minimum de. Et probablement, il y a parmi ces affous, les affous que j'ai depuis 21 ans. C'est possible que tous les affous, c'est ça, je ne sais pas. Mais dans les monastères zen traditionnels, il y a une salle dédiée au Dharma Talk. On ne le fait pas dans le même endroit, on le fait zazen. Et ça a certaines dimensions, ça a certaines qualités. Les moines ne regardent pas le maître, ils sont en zazen. Ils écoutent. Bon. C'est aussi dans nos zones traditionnelles, on est face au mur, ce que j'aime bien faire parfois, parce que c'est très fort cette expérience de face au mur. On ne sera pas en ligne comme ça. Alors là, c'est complètement.
Hérétique.
Quoi?
Hérétique.
Ben, je ne sais pas, ça n'existait pas. Donc c'est, je ne sais pas dans les monastères aujourd'hui. Chaque instant, il faut tout jeter pour revenir ici. Si on vient avec une idée préconçue de comment on veut que cet instant soit, comment il faut faire, qui doit être là, et comment cette personne doit être, comment il doit être habillé, c'est comme notre déjeuner. On n'a aucune idée ce qu'on va avoir pour le déjeuner. Dans le Zendo à Montreuil, Tenzo, c'est absolument ce qu'il va faire et tout le monde fait confiance que le Tenzo a fait comme il faut et que c'est son Oriyoki. Il a trois bols. Bon, ils ne savent pas exactement ce que c'est, mais ils sont plus sûrs que nous. Là, nous, on n'a aucune idée. Enfin, chacun sait ce qu'il a amené, mais à part ça. Et puis, j'ai vu les deux personnes qui sont inscrites sur la liste, je sais qu'ils ont amené. Mais à part ça, que là. C'est. On s'habitue à cette incertitude et on fait confiance. Autrefois, quand on faisait des journées comme ça, bon, on a fait des journées comme ça dans des endroits, mais partout à Paris. Hein. Parce qu'au début, moi, j'avais un jeune enfant à la maison et Joe aussi. Et donc, on ne pouvait pas faire dans nos maisons. On a fait ça dans les bureaux. On a fait ça, oui, dans mon salon, dans un salon avec mon fils et mon mari qui passaient. Enfin, on a fait ça partout. Il arrivait parfois que, effectivement, pour le déjeuner, on avait des clémentines, 6 baguettes et une salade de lentilles. Et du chocolat. Parce que tout le monde amenait des pas très équilibrés. On ne sait pas. Peut-être on va trouver avec quelque chose comme ça aussi aujourd'hui. On ne sait pas. On fait confiance que l'univers va provide. L'univers, comment dire en français, va nous s'occuper. Hein?
Proposer ou
Va nous apporter ce dont on a
exactement.
besoin.
Exactement.
Mais il faut avoir du courage pour ça. Et il faut avoir le courage de la petite graine qui renonce à son granitude pour que l'autre chose arrive. Il faut avoir du courage, et donc ça, c'est comme j'aime bien parler de la radicalité et la révolution dont il s'agit, cette pratique. Il faut avoir le courage de notre rebelle en nous qui fait une rébellion contre son identité fixe, son identité. Qui nous pose tellement de problèmes. Mes deux chats n'ont pas du tout de problème de se rebeller contre les identités qu'on leur a collées. Bon, elles ne savaient pas. Okay. Mais peut-être, je ne sais pas. Et donc, elles sont juste ce qu'elles sont. Elles sont rebellées contre ce que la vie avait pointé pour elles. On les a aidées, on les a accueillies. On leur a donné une situation de vie et elles se sont révoltées contre les idées préconçues de qui elles devenaient. Et nous, on peut faire la même chose. Cette pratique, c'est fait pour ça. C'est pour se rebeller contre ça. Et cette peur de rebelle a le courage de sauter au-delà de ce qui est convenu, ce qui est fixe, ce qui est. Les attachements, ah, ce cœur-là a ce courage. Je le sais. Et quelque part, vous le savez aussi. Ou vous ne serez pas là. Est-ce que ce qu'on, si on fait confiance à cette révolte, à cette. Ça fait une véritable révolution du cœur et de l'esprit et de l'être. Ça nous permet de découvrir les découvertes, mais insensées, de qui on est, qui est l'autre, qu'est-ce que c'est l'univers, qu'est-ce que c'est la vie. Ça nous permet de, ça nous élimine, disons, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de la douleur parfois, qu'on ne va pas se couper, qu'on ne va pas, la petite chatte qui s'est révoltée contre sa condition de bourgeoise de Montmartre. Elle a ce truc qui la gratte, elle a les allergies, elle fait chez le vétérinaire quand on essaie de lui faire quelque chose, mais elle est libre. Nous aussi, donc on peut avoir des difficultés, on peut rencontrer des douleurs, mais on est de souffrance, c'est comme on dit, facultatif. La douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. On peut se libérer de cette souffrance qui est liée à nos attachements. Disons ça, comme ça. Alors, ces rituels, donc qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on a ça? Pourquoi on a ces raccourcis? Pourquoi on a cette histoire, cette façon-là, etc. C'est une façon de nous rappeler, de nous ramener, de nous aider à se souvenir, ah oui, c'est ça ce que je veux. Ce n'est pas ces formes-là que je veux, c'est ce que ces formes me pointent vers Non, c'est pas ça, c'est pas que ça pointe vers. Ça nous rappelle de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas des formes, mais il s'agit de qu'est-ce que ces formes nous rappellent. Et c'est de. On continue de faire un hôtel, même si ça ressemble à rien. L'hôtel à Montreuil, là, dans le Zendo, là où ils sont en train de faire leur pratique aujourd'hui. Quelqu'un est en train de faire un talk exactement à ce moment-là. Je ne sais pas quelle heure il est, mais. Probablement à cette heure-là. Enfin, c'est sûr qu'à ce moment-là, quelqu'un là-bas est en train de faire un dernier tour. On suit le même rituel. Eux, sauf que sur leur hôtel, ils ont des magnifiques fleurs, ils ont une superbe statue de Manjushri en bois que Masumi Roshi avait donnée à Gena Roshi. Il y a une superbe bougie que entre chaque zazen, quelqu'un. Taille pour que ce soit parfaitement égal. Il n'y a pas une miette de cendre de l'encens autour de la bolle. La bolle qui est remplie avec des cendres depuis je ne sais pas combien de temps ça dure, ces cendres. Mais on fait la même chose. C'est le même. Rien n'a été perdu. Pas une goutte a été perdue de quoi il s'agit. Et ça, j'ai confiance parce que je viens de là. Et je le sais, je le connais. Et ce que je manifeste ici, c'est la même chose qui est manifestée là. Ça se présente de la même façon. Je le trouve que il y aura des gens qui sortent de là et. Mes frères et sœurs, ils font à leur façon, comme moi je fais à ma façon. Bien qu'elle, mon maître, est plus attachée à ses formes que moi je suis, elle aussi, elle sait que c'est pas ça dont il s'agit. Donc, on peut se servir de toutes ces formes et rituels. Pour nous rappeler, la voie de l'éveil, de quoi il s'agit, c'est quoi éveiller, c'est quoi notre pratique. Et que si on oublie le rakusu, on peut. Rien n'est perdu, rien n'est perdu. Alors, c'est curieux, je ne vois pas l'heure sur mon ordinateur, je vois habituellement.
1h10.
Okay. Donc, voilà, si vous voulez dire des choses ou poser des questions.
Ça me fait penser à quelqu'un que j'accompagne. Parce que ces attachements aussi, ça renvoie une idée, j'avais pas cette notion, c'est la personne qui me l'a dit, d'appartenance. Et du coup, ma question c'est comment se sentir appartenir finalement bah, à tous les êtres, voilà, tout en n'étant pas dans l'attachement.
Oui, c'est une bonne question. Et donc, et souvent, c'est curieux parce que souvent dans les communautés zen ou bouddhistes en général, c'est ça qui se passe. Les gens, ils veulent appartenir à ce groupe ou cette communauté et donc ils adaptent les formes, les habits, la façon de se comporter, il s'approprie les formes, les choses qu'il faut faire ou pas faire, etc., pour appartenir au groupe. Et on fait la même chose donc, dans nos communautés plus larges, dans nos pays, dans notre ville, dans nos lieux de travail, etc. Alors, On a besoin de des points de repère, évidemment. Et c'est pas forcément néfaste de s'adopter les mêmes habits, les mêmes objets. Mais croire que on appartient à une communauté spirituelle parce que on a un rakusu, c'est passer à côté de ce que c'est l'appartenance. C'est, comment dire, c'est faire partie d'eux, et même ultimement, c'est de voir qu'on est un avec, qu'on n'est même pas une partie, c'est qu'on est un, et de voir notre nature, notre essence qui est la même, et on appartient à l'espèce humaine, mais même au plus large, à l'univers. Donc et on est, en même temps, on est une manifestation spécifique et unique de cette essence. Et donc, si on disait que, et moi j'observais ça de loin quand j'ai commencé ma pratique, mais dans le sangha de mon maître, son maître, disons, dans le Kanzen Sangha de Gyanpo Roshi, les hommes s'habillaient tous comme lui et mettaient une casque de baseball comme lui. Lui faisait de musculation, ils faisaient tous de musculation. À l'époque, ça m'énervait, mais maintenant, je vois, c'est presque touchant. Ils veulent être comme lui. Ils pensent que s'habiller comme lui, mettre une casquette de baseball, faire de musculation, c'est être cette personne éveillée et évoluée qui veut l'être. Il veut la même chose que lui, mais il pense que c'est imiter lui. Et il y a cette phrase célèbre qui est « Ne cherchez pas à marcher dans le pas des sages, cherchez ce que eux, ils ont cherché. » Et on va chercher ça chacun à sa façon. Donc, appartenir à la race, à la communauté universelle, c'est voir qui on est véritablement. Alors, certaines personnes, donc j'imagine la personne que tu accompagnes, il a besoin de ça, il a besoin de savoir qui il appartient.
Oui, et je pense qu'on a d'autant plus besoin qu'on appartient à une minorité.
Absolument, c'est ça, absolument. Parce que, donc, qu'est-ce qui se passe avec les minorités? Que ce soit les minorités raciales, économiques, nationalités, genre,
Moraux,
quoi?
voilà,
C'est ça,
cérébral.
exactement. Si on appartient à toutes ces minorités, entre guillemets, viennent de cet esprit qui veut séparer, mettre dans les catégories, focaliser sur les différences. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence, mais comme qu'est-ce que j'avais dit, j'ai dit ça l'autre jour, c'est de voir, c'est comme voir le bien-être et le mal-être, ou ce qui fait mal et ce qui fait du bien, égal. C'est-à-dire de voir chacun pour ce que c'est, donc pour voir chaque être pour ce qu'il est. Il est neurodiverse, ou elle est plus grande ou plus petite que quelqu'un d'autre, moins d'éducation que quelqu'un d'autre, toutes ces catégories qu'on crée, plutôt que juste apprécier chacun comme il est. Et si c'est ça, bon, c'est une idée, c'est idéal, hein, on n'en est pas là. Hein. Mais si on arrive à ça, même dans notre vie, les gens ont moins besoin de... Ils sentent qu'ils appartiennent. Ils sentent qu'ils sont fait partie de la famille, entre guillemets, de la communauté. Et ils ont moins besoin de ces attachements ou ces objets ou ces comportements pour appartenir, parce qu'ils savent fondamentalement qu'ils appartiennent, qu'ils sont des autres. Et ceci dit, c'est très difficile à... Si on regarde autour de nous, comme tu dis, Isabella, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais si on regarde en nous, et on... Donc on peut avoir un effet sur nos comportements avec les autres. Je vois ça avec mes chats. Je peux voir où sont mes idées reçues de comment ce chat doit être et l'autre non. Et je les accueille comme elles sont. Et là, je peux véritablement les voir et savoir comment interagir avec elles pour les accueillir pleinement, telles qu'elles sont. Et quand je rentre dans la Zendo comme ça, je ne regarde pas qui a un rakusu et qui n'en a pas. Et je ne traite pas les gens différemment parce qu'ils ont un rakusu ou pas. Et je ne dirai jamais à quelqu'un qu'il faut avoir un rakusu ou qu'il ne faut pas avoir un rakusu. Jamais. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question.
C'est juste parce que l'expérience que j'ai plus physique vraiment, c'est que quand on appartient à une minorité aussi, on va subir tellement de violence du monde qu'en fait ces attachements-là donnent de la force. Voilà. Et là,
Absolument.
ma question c'est comment retrouver de la force quand on subit énormément de violence du monde sans, et en même temps voilà, sans être dans l'attachement. C'est plus ça
Mais...
physiquement j'arrive pas j'arrive pas à le sentir.
Peut-être,
C'est...
oui, c'est ça, tu poses la question, je
Oui, c'est
comprends. Oui.
ça.
Peut-être que... Quand j'entends ça, et absolument, c'est ça, c'est de se servir de ces attachements, de ces choses qui nous fait qu'on appartient, de se servir de ça justement pour se réaliser comme groupe, comme individu, pas forcément avec violence, bien qu'on est confronté à la violence. Oui, de se servir de ça, pas comme c'est... Pas comme une identité fixe, mais une identité qui nous permet de se réaliser autour de quelque chose comme ça. Comme on se sert de toute cette identité zen qu'on a pour se réaliser, pour se libérer. Et c'est très utile pour ça. Le danger, entre guillemets, c'est qu'on s'identifie, on croit qu'il s'agit juste de ça. Ben on s'identifie tous les gens qui il y a un certain nombre de nous ici sont dans cette catégorie de boomers, n'est-ce pas? Les boomers, c'est des gens, la dernière année, c'est 62. Donc, tous ceux qui sont nés après 62, vous n'êtes pas boomers. Hein? Mais tous nous qui sommes nés avant, on est dans cette catégorie. Oui, bon, c'est exactement. Donc, c'est générationnel, on est maintenant sur les générations. Il y a certaines gens qui sont très attachés à cette identité.
Sur les générations. Et moi, pour répondre à ta question, en fait, c'est vraiment une question de toutes nos relations humaines, surtout aujourd'hui, dans les bouleversements qu'il peut y avoir. Et finalement, en fait, des fois, c'est une appartenance qu'on nous impose. Et c'est pas facile parce qu'on subit en fait des choses dues à cet appartement. Je prends simplement l'exemple de Douma, qu'à des moments je peux trouver complètement ridicule. Et en fait, en même temps, voilà, qu'est-ce qui en moi peut me permettre de me rattacher à ça et qu'est-ce qui fait ma différence? Et finalement, en fait, dans ces choses-là, il y a la liberté. Et donc, du coup, le détachement. Pour moi, en fait, il vient aussi de comprendre en fait tous ses tenants et ses aboutissants et finalement la dérision qu'il peut y avoir par rapport à la véritable essence de la vie. Mais m'empêche que je suis née ici, à ce moment-là, sous cette identité et que c'est à travers ça que je me réalise et que moi, je vais rencontrer des difficultés que toi, tu ne vas pas rencontrer et comme toi, tu vas rencontrer des difficultés que je ne vais pas rencontrer. Et à un moment, en fait, j'ai pensé au mot biodiversité. C'est-à-dire que cette biodiversité qui est à l'intérieur des bourgeons, qui est à l'intérieur des plantes, elle existe aussi à l'intérieur de nous d'une manière, enfin, je sais pas, tellement forte, tellement incroyable, qu'en fait, c'est ça qui peut nous donner la liberté, justement, de ne plus aller vers cette appartenance, parce qu'on appartient à quelque chose de plus grand en tant qu'espèce humaine, et aujourd'hui, on n'arrive pas à se dépatouiller avec ça, enfin moi c'est le
Et donc, mais ce que je voulais dire à partir de ce truc des boomers, c'était que il y a des gens qui sont très attachés, soit les gens qui veulent se moquer des boomers, mais aussi des gens qui sont boomers, et j'utilise ce titre parce que c'est juste une catégorie. Et à l'époque des boomers, quand on était ados, etc., les hommes, ils avaient les cheveux longs, il y avait un certain genre de musique, une certaine façon d'habiller. Bah, il y a toujours des mecs qui ont 80 ans et ont des cheveux très longs.
Un cheveu très long.
Oui, c'est ça, quoi.
Un cheveu très
Oui, c'est ça.
long.
Donc, pourquoi pas? Mais on sait qu'il y a un certain attachement à ce qui était un signe d'appartenance, un groupe, etc. Et je ne critique pas du tout, hein. C'est juste une observation. J'ai juste pris cet exemple parce que c'est très parlant. Mais effectivement, c'est personne n'est boomer. Enfin, c'est une catégorie comme génération X, Y, millennial, toutes ces juste des catégories. Comme on n'est pas blanc, jaune. Noir, c'est juste une catégorie. Senior, petite jeunesse, c'est juste des catégories. Alors, est-ce qu'on peut, justement, si ça nous aide à se cultiver et s'éveiller à qui on est véritablement et cheminer dans le monde? Il n'y a pas de problème de se dire je suis boomer. Mais si ça me contraint et ça m'empêche, ou je rejette des autres parce qu'ils n'appartiennent pas à mon groupe, si je me limite, si je ne vois pas qui je suis véritablement, qui n'a rien à voir avec un titre de génération, alors là, c'est problématique. Pour moi-même et pour la façon que je traite les autres aussi. Et effectivement, on est dans un monde où ça s'aggrave. Enfin, je ne sais pas si ça s'aggrave, mais beaucoup d'emphase est mise sur ces différences plutôt que sur l'unité.
Après ces catégories-là, la sociologie, je pense. Oui, après, il y aurait la question, c'est-à-dire est-ce que ça, les recherches peut-être peuvent montrer, est-ce que ça va renforcer justement à partir du moment qu'on crée une catégorie par l'observation de ce qui existe dans une certaine époque, qu'après la personne va s'identifier à ce qui est dit sur ce qui existe dans cette époque, ça va renforcer. Moi, ça me fait penser à la génération plutôt Z, parce que c'est la génération qui, par rapport à mon travail, va être beaucoup plus à l'aise par rapport aux réseaux sociaux de parler de santé mentale. Et du coup, est-ce que c'est en effet ça? Ou est-ce que c'est parce qu'on a dit voilà, que c'est une génération qui va mal et que voilà, c'est OK d'aller mal, qu'elles se sont identifiées avec ça et que finalement, voilà, elles vont être plus à l'aise que leurs parents. Voilà, etc.
Oui, il y a beaucoup
Oui.
d'implications,
Oui.
hein, ça. Et tout est en voie karmique, donc
Oui.
c'est qui est lié comme le soleil qui était là, c'est karmique que le soleil arrive là, à cet instant-là, et qu'on le voit, et qu'on se trouve à cet instant-là. C'est tellement. Complexe et simple à la fois, disons. C'est comme cette. Et tout ce que je dis, c'est est-ce qu'on se libérer de ce qui nous contraint, est-ce qu'on peut réveiller cette rebelle en nous qui dit OK, j'appartiens aux catégories boomer ou génération Z ou je ne sais pas quoi. Mais je me rébelle. C'est pas moi ça. Je suis pas ça.
Je voudrais rebondir un petit peu sur beaucoup de choses qui me sont venues à l'esprit pendant que vous parlez, pendant que vous échangiez. Et bon, je ne sais pas sur quoi je vais partir là à l'instant. Si je glisse un petit truc, la première chose que je voulais dire, c'était reprendre une phrase, une citation, enfin, une des citations de ce matin. Qui m'a interrogé, parce que bon, ça interroge un champ, mais je ne vais pas rester là, hein, là-dessus. C'est la douleur est inévitable et la souffrance est facultative. Donc ça me parle, parce que c'est. Voilà. Mais ce n'est pas là-dessus que je veux développer, c'était là-dessus que je me suis dit, tiens, il faut que je pose la question qu'on élabore sur ce thème-là. Mais après, je voulais reprendre sur le thème de l'attachement et ton exemple de Rakusu aussi, que j'éprouve parfois, parce que des fois aussi, c'est rare, mais je m'assois en zazen chez moi et je n'ai pas le Rakusu. Bon, en général, je vais le chercher, c'est au début. Puis des fois, je dis non, je ne le prends pas. Et moi, mon zazen est différent. Parce que voilà, je ne rentre pas dans, je fais pas ma méditation du matin ou ma méditation du soir, c'est autre chose. Donc, voilà. Et après, j'oublie juste donc en parlant d'attachement, pourquoi je suis passé par là aujourd'hui. En fait, je vais voir une vieille tante qui a 96 ans, que je fais rentrer dans un EHPAD au Mans. Et j'avais initialement réservé un train pour lundi matin, je comptais l'avoir lundi matin. Et puis quand j'ai vu que samedi 20, donc lundi 24, puis samedi 22, j'ai vu qu'il y avait la journée zen. La dernière fois, j'avais été voir ma tante et au retour, je l'ai fait la journée zen. Donc ça fait un déclic, je me suis dit, ah ben je peux avancer, comme ça je participerai, si c'est possible, en transitant. À cette journée zen et ce soir je repars sur le Mans. Et en fait, tout ça pour revenir, je suis un nomade dans la pratique zen. J'ai suivi plusieurs sanghas, hein, plusieurs enseignants, plusieurs maîtres. Et maintenant, de manière principale, je médite plutôt tout seul. Et je participe à des sessions comme à ta sangha, à votre sangha. Et j'ai besoin, alors je suis bien dans ma méditation tout seul, mais j'ai besoin aussi de me rattacher à une sangha. Les rituels ne sont pas les mêmes, mais j'ai besoin de rituels. Et j'ai besoin de jeter les rituels ou de les changer lorsqu'ils sont trop contraignants. Mais en même temps, j'ai besoin de rituels chaque fois qui me remettent sur le chemin.
Et donc voilà, donc je suis ici pour faire ce petit passage en ce moment, donc depuis quelques années. Donc je pratique dans cette sangha où je me sens bien. Et voilà, c'était un petit témoignage.
C'est très sain comme rapport avec le rituel, la forme, etc. Tu sens quand ça, et tu sens comment ça t'aide, mais tu es capable aussi de... Et ça t'aide aussi de ne pas être dans le contexte précis et de ne pas avoir le raccourci par moment. Je connais totalement ça.
Et en même temps, bon, ça fait maintenant, ça fait 35 ans, donc je pratique le zen. J'ai changé différentes formes. À un moment, j'étais attiré, tu parlais des boomers qui, au début, ou des pratiquants du maître de ton maître qui l'imitait. Moi, j'ai pratiqué aussi dans le Shambhala, parce que je connais. Pour moi, le bouddhisme tibétain m'a toujours un peu attiré, mais je voulais avancer plus parce que les livres, enfin, les enseignements de Shogyam Trungpa me plaisaient beaucoup. Et en fait, je suis rentré dans le Shambhala, bon, par hasard, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les cheminements qui m'ont conduit aux différents endroits, mais je suis rentré dans le Shambhala parce que ça m'intrigue l'idée de dévotion qui n'est pas trop dans le zen. On est respectueux du maître, de l'enseignant, on est attaché, on le suit, disons, mais il n'y a pas la notion de dévotion qu'il y a dans le bouddhisme tibétain, et en particulier dans le Shambhala, qui est un bouddhisme laïque aussi, quoi. Et j'ai parcouru donc toutes les étapes pour arriver à. Parce qu'il y a la formation d'un Shambhala, bon, tu le sais, il y a des programmes avec des niveaux, niveau 1 jusqu'à 5, puis après d'autres, etc. Quoi, on monte. Et le dernier, c'est l'assemblée des guerriers, je
Oui, c'est
crois.
ça.
Voilà. Et je l'ai faite, et donc c'était la dernière étape avant que je puisse prendre refuge, entre guillemets, avec Sakyong, donc le fils de Shogyam Trungpa, qui est bon, maintenant, qui n'est plus là, qui a d'autres histoires. Et justement, cette histoire-là, donc juste au moment où j'avais la possibilité de rentrer dans ça, parce que j'étais curieux de voir qu'est-ce que c'était la pratique de dévotion, même si personnellement, c'est pas trop mon truc, enfin, je suis pas. Et en fait, juste à ce moment-là, le scandale du Sakyong et tout ça a commencé. Et ce qui fait que ça n'a plus été possible. Enfin, il y a eu une débandade pendant quelques années. Bon, maintenant, ça commence à se reconstituer, mais d'une façon différente. Mais je n'ai pas pu. Bon, pourquoi je dis tout ça? C'est que je suis partagé à tout moment entre. La sérénité de ma pratique, je vis à la campagne, hein, tout seul. Je lis des livres de Antoine Marcel, je ne sais pas si tu connais. C'est merveilleux, c'est un pratiquant zen en Dordogne qui est perdu, mais qui est très peu connu, qui a écrit plein de bouquins, mais très peu connu aussi. Et bon, je m'identifie un petit peu à lui, cette pratique solitaire, en famille, tout ça, mais bon, ma pratique est solitaire. Et en même temps, j'ai besoin d'appartenir à une sangha, d'avoir des rituels qui me remettent dans le chemin, sinon je m'égare tout seul. Voilà, bon. J'avais besoin de faire ces digressions, excusez-moi, j'ai été un peu long. Il n'y a pas de question, si ce n'est la première. Et si tu peux me répondre un petit peu entre, ça m'a intrigué, donc la douleur est inévitable et la souffrance est facultative.
Oui, merci. Pour ce qui est juste, j'ai répondu plus ou moins sur ta pratique et ce que c'est que tu sembles trouver un chemin de milieu qui te correspond, enfin qui marche pour toi, entre guillemets, qui te permet de marcher. Pour ce qui est le douleur et la souffrance, On souffre parce que on veut que les choses soient autrement. Donc, on veut pas que les gens, que quelque chose que j'aime, on veut pas que ça disparaisse, et quelque chose que je n'aime pas, je veux pas que ça reste. C'est plus ou moins ça la base. Je veux que les choses changent. Seulement quand je veux. Si j'aime quelque chose, je veux que ça change jamais. Et donc, c'est impossible. Et donc, on souffre avec ça. C'est impossible, tout ça. Et donc, on souffre quand quelqu'un meurt, on sent de la douleur, la tristesse, la perte, le deuil, le profond. Désarroi, peut-être, quand on est malade, pareil, quand avec l'âge, on regarde nos corps, quand c'est un petit bébé qui commence à marcher, c'est formidable, il grandit, il change, etc. Mais quand on est âgé, oh là là, non, on ne veut pas changer. Et mon expérience, le plus concret que j'ai, qui m'a vraiment éveillée à cette notion de douleur et souffrance, et le inévitable et le facultatif, c'était quand j'ai accouché de mon fils. Et c'est très intense, les contractions. Comme c'était mon deuxième enfant, j'étais au courant un peu comment ça se passe. Donc j'ai resté à la maison le plus longtemps possible pour ne pas être coincé aux cliniques éternellement, inconfortable, etc. J'avais même mangé avant d'y aller, ce qui est interdit. Mais je l'ai fait parce que je savais qu'ils n'allaient pas me venir manger. Je ne savais pas combien de temps ça durait. On va aux cliniques, donc il y avait mon mari, moi et mon maître, que j'avais demandé de m'accompagner. Mon mari garde la voiture, il nous dépose, et entre les contractions, ça allait pour le moment. Et donc, il va se garer, et moi, chez moi, on va s'asseoir dans l'entrée pour qu'il nous accueille, etc. Et par moments, j'étais vraiment pris par la contraction qui est très intense. Et à un moment, Roshi me regarde, et il me dit, va dans la même direction que la douleur. C'était entre les contractions, donc j'étais plus ou moins lucide. Et comme c'était elle et comme c'était moi, et on avait cette relation très forte, etc., j'ai entendu. Elle me dit, va dans la même direction que la douleur. Bah, ça a tout changé. Je ne cherchais plus à. Je me suis rendu compte. Dès qu'elle me dit ça, je me laissais entièrement envahir de la douleur. Peut-être d'autres qui ont accouché reconnaissent ça, je ne sais pas. Je me suis laissée complètement envahie par cette douleur. Et je me suis rendu compte que j'avais auparavant, d'une façon inconsciente, j'essayais de la contenir, de la garder ici, de ne pas la laisser monter, de ne pas la laisser dans tous les sens. C'est une façon métaphorique de le dire, mais c'était vraiment ça. J'essayais de. Je résistais le max à cette douleur parce que c'est horrible. Quand je lâchais et je ne résistais plus, j'étais la douleur. Je faisais des bruits, mais ancestrales. Enfin, c'était des trucs, mais inouïs. Et la sage-femme qui m'a examinée en arrivant, elle m'a dit, ouf. Cet enfant va naître là. Hein. J'étais très dilatée et on ne pouvait même pas aller dans une salle de travail. On était juste dans une salle d'hôpital et on a fini. Mon mari était sur la chaise et j'étais accroupie entre ses genoux et j'ai accouché comme ça. Hein. Et la sage-femme était là avec un drap et Roshi était derrière. Voilà, c'était comme ça. Hein. Mais c'est. En fait, c'est ça le plus naturel, la façon la plus. On se sert de la
gravité.
Oui, c'est ça. Plutôt que d'être sur le dos avec des jambes en l'air, c'est pas très naturel, ça. Bref. Et je me suis rendu compte, c'était l'expérience directe, de ce que ça veut dire que la douleur, c'est inévitable parce que le corps est fait comme ça. C'est inévitable ça. Mais la souffrance est ajoutée.
Ça me parle beaucoup. Tu vois, j'attendais l'explication. Je ne pouvais pas imaginer d'avoir une meilleure explication. Moi, j'ai jamais enfanté.
Mais tu as observé l'enfance? Non.
Non, c'est comment tu as décrit l'adjectif inévitable pour douleur et l'adjectif facultatif pour souffrance. Je le percevais au début, mais ton développement m'a parlé parce que je suis en ce moment, et encore ce matin dans le train, j'y pensais. Enfin, et j'y pense depuis plusieurs années, je pourrais dire même depuis 70 ans, à peu près, non, 60 ans à peu près. J'ai un problème récurrent qui se transforme, qui se transforme, qui se transforme. Et chaque fois que je veux l'éliminer ou le transformer, il se renforce. Alors chaque fois que je vais dans cette douleur existentielle, mais lié au corps aussi, c'est plus facile. La douleur est supportable et donc je peux avancer.
C'est ça.
Voilà, donc ça m'a, merci beaucoup, ça m'a vraiment parlé.
Crois que c'est l'heure, hein, Monique. Bon, merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci. Merci.
Merci.
Et j'ai
Donc,
le temps d'aller chercher, parce que moi, j'ai rien acheté, donc.
attends,
Oui, on va arrêter là. Krisha, on sera de retour à quelle heure? We'll be back at what time?
It's at 3. We have an hour and a half.
So it's two for you. But, you know, if you have your kids or whatever, it's fine.
I have
Okay.
my
Okay.
kids. No protocol, no vows, no
No,
boundaries.
in this place, it's just too complicated.